Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Quand on évoque une correspondance célèbre, on pense immédiatement à elle, cette grande dame de la cour de Louis XIV, la marquise de Sévigné. La sixième représentation d'Esther eut lieu le 19 février. La première représentation avait été donnée le 29 janvier. À Paris, ce lundi 21e jour de février 1689, à Madame de Grignan. Je fis ma cour l'autre jour à Saint-Cyr plus agréablement que je n'eusse jamais pensé. Nous y allâmes samedi, Madame de Coulanges, Madame de Bagnoles, l'abbé Têtu et moi. Nous trouvâmes nos places gardées. Un officier dit à Madame de Coulanges que Madame de Maintenon lui faisait garder un siège auprès d'elle. Vous voyez quel honneur. « Pour vous, Madame, me dit-il, vous pouvez choisir. » Je me mis avec Madame de Bagnoles au second banc, derrière les duchesses. Le maréchal de Bellefonds va se mettre, par choix, à mon côté droit. Et devant, c'était Mesdames d'Auvergne, de Coislin, de Sully. Nous écoutâmes, le maréchal et moi, cette tragédie avec une attention qui fut remarquée, et de certaines louanges sourdes et bien placées, qui n'étaient peut-être pas sous les fontanges de toutes les dames. Je ne puis vous dire l'excès de l'agrément de cette pièce, c'est une chose qui n'est pas aisée à représenter, et qui ne sera jamais imitée. C'est un rapport de la musique, des vers, des chants, des personnes, si parfait et si complet qu'on n'y souhaite rien. Les filles qui font des rois et des personnages sont faites exprès. On est attentif et on n'a point d'autre peine que celle de voir finir une si aimable pièce. Tout y est simple, tout y est innocent, tout y est sublime et touchant. Cette fidélité de l'histoire sainte donne du respect. Tous les chants convenables aux paroles qui sont tirés des psaumes ou de la sagesse et mis dans le sujet sont d'une beauté qu'on ne soutient pas sans larmes. La mesure de l'approbation qu'on donne à cette pièce, c'est celle du goût et de l'attention. J'en fus charmé, et le maréchal aussi. qui sortit de sa place pour aller dire au roi combien il était content et qu'il était auprès d'une dame qui était bien digne d'avoir vu Esther. Le roi vint vers nos places et après avoir tourné, il s'adressa à moi et me dit « Madame, je suis assurée que vous avez été contente. » Moi, sans m'étonner, je répondis « Sire, je suis charmée. Ce que je sens est au-dessus des paroles. » Le roi me dit « Racine a bien de l'esprit. » Je lui dis « Sire, il en a beaucoup, mais en vérité ces jeunes personnes en ont beaucoup aussi. » Elles entrent dans le sujet comme si elles n'avaient jamais fait autre chose. Il me dit « Ah, pour cela, il est vrai. » Et puis, Sa Majesté s'en alla et me laissa l'objet de l'envie. Comme il n'y avait quasi que moi de nouvelles venues, il eut quelque plaisir de voir mes sincères admirations sans bruit et sans éclat. Monsieur le prince, Madame la princesse me vinrent dire un mot. Madame de Maintenon, un éclair. Elle s'en allait avec le roi. Je répondis à tout, car j'étais en fortune. Émile Feuillâtre, agrégé de grammaire, préfaçait l'édition de 1934 des classiques Larousse pour les lettres de Marie de Sévigné. Pomponne était exilée dans ses terres. Madame de Sévigné, qui était à Paris, lui écrivait jour après jour les incidents du procès du surintendant Fouquet. Avant de comparaître devant la chambre de justice de l'Arsenal, Fouquet avait subi 3 ans de détention sans jugement. À Monsieur de Pomponne, 17 novembre 1664. Aujourd'hui, lundi 17 novembre, M. Fouquet a été pour la seconde fois sur la sellette. Il s'est assis sans façon, comme l'autre fois. M. le chancelier a recommencé à lui dire de lever la main. Il a répondu qu'il avait déjà dit les raisons qui l'empêchaient de prêter le serment, qu'il n'était pas nécessaire de les redire. Là-dessus, M. le chancelier s'est jeté dans de grands discours pour faire voir le pouvoir légitime de la Chambre, que le roi l'avait établi et que les commissions avaient été vérifiées par les compagnies souveraines. M. Fouquet a répondu que souvent on faisait des choses par autorité, que quelquefois on ne trouvait pas juste quand on y avait fait réflexion. M. le chancelier a interrompu « Comment ? Vous dites donc que le roi abuse de sa puissance ?» M. Fouquet a répondu « C'est vous qui le dites, monsieur, et non pas moi. Ce n'est point ma pensée et j'admire qu'en l'état où je suis, vous me vouliez faire une affaire avec le roi. Mais monsieur, vous savez bien vous-même qu'on peut être surpris. Quand vous signez un arrêt, vous le croyez juste. Le lendemain, vous le cassez. Vous voyez qu'on peut changer d'avis et d'opinion. Mais cependant, a dit monsieur le chancelier, quoique vous ne reconnaissiez pas la chambre, vous lui répondez, vous présentez des requêtes, et vous voilà sur la sellette. Il est vrai, monsieur, a-t-il répondu, j'y suis. Mais je n'y suis pas par ma volonté, on m'y mène. Il y a une puissance à laquelle il faut obéir, et c'est une mortification que Dieu me fait souffrir, et que je reçois de sa main. Peut-être pouvait-on bien me l'épargner après les services que j'ai rendus et les charges que j'ai eu l'honneur d'exercer. Après cela, monsieur le chancelier a continué l'interrogation sur la pension des gabelles, où monsieur Fouquet a très bien répondu. Les interrogations continueront, et je continuerai à vous les demander fidèlement. Je voudrais seulement savoir si mes lettres vous sont rendues sûrement. À Monsieur de Pomponne, jeudi 27 novembre 1664. Il faut que je vous conte ce que j'ai fait. Imaginez-vous que ces dames m'ont proposé d'aller dans une maison qui regarde droit dans l'arsenal pour voir revenir notre pauvre ami Fouquet. J'étais masqué et je l'ai vu venir d'assez loin. Monsieur d'Artagnan était auprès de lui. 50 mousquetaires derrière, à 30 ou 40 pas. Il paraissait assez rêveur. Pour moi, quand je l'ai aperçu, les jambes m'ont tremblé et le cœur m'a battu si fort que je n'en pouvais plus. En s'approchant de nous pour rentrer dans son trou, monsieur d'Artagnan l'a poussé et lui a fait remarquer que nous étions là. Il nous a donc salués et a pris cette mine riante que vous connaissez. Je ne crois pas qu'il m'ait reconnu, mais je vous avoue que j'ai été étrangement saisie quand je l'ai vu rentrer dans cette petite porte. Si vous saviez combien on est malheureux quand on a le cœur fait comme je l'ai, je suis assurée que vous auriez pitié de moi. Et je pense que vous n'en êtes pas quitte à meilleur marché de la manière dont je vous connais. À Monsieur de Pomponne, lundi 1er décembre 1664, il faut que je vous conte une petite historiette qui est très vraie et qui vous divertira. Le roi se mêle depuis peu de faire des vers. Messieurs de Saint-Aignan et d'Angeau lui apprennent comment il faut s'y prendre. Il fit l'autre jour un petit madrigal que lui-même ne trouva pas fort joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont: « Monsieur le maréchal, je vous prie, lisez ce petit madrigal et voyez si vous en avez jamais vu un si impertinent. Parce qu'on sait que depuis peu j'aime les vers, on m'en apporte de toutes les façons. » Le maréchal, après avoir lu, dit au roi: « Sire, votre majesté juge divinement bien de toutes choses. Il est vrai que voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'ai jamais lu. » Le roi se mit à rire et lui dit: « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat ?» Sire, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. Oh, bien, dit le roi, je suis ravi que vous m'en ayez parlé si bonnement. C'est moi qui l'ai fait. Ah, sire, quelle trahison! Que votre majesté me le rende, je l'ai lu brusquement. Non, monsieur le maréchal, les premiers sentiments sont toujours les plus naturels. Le roi a fort ri de cette folie, et tout le monde trouve que voilà la plus cruelle petite chose que l'on puisse faire à un vieux courtisan. Pour moi, qui aime toujours à faire des réflexions, je voudrais que le roi en fît là-dessus et qu'il jugeât par là combien il est loin de connaître jamais la vérité. Dans le Figaro du mardi 5 juillet 2016, Armel Héliot présentait le Festival de la Correspondance. Le génie du lieu a présidé à sa naissance. Grignan, un château qui domine son village harmonieux. La plaine à ses pieds, vergers et champs de lavande violette, les montagnes au loin. On est en Drôme provençal, le ciel est vaste et l'histoire dévale les ruelles. Sur le parvis du château, Don Quichotte et Sanchon Pança vous entraînent sur des chemins épiques de mois durant. Un château où vécut la fille tant aimée de la marquise de Sévigné, 1626-1696. Sur les 1120 lettres de la célèbre épistolière, 764 étaient adressées à sa fille, justement. Et la marquise fit bien sûr des séjours à Grignan, y mourut et y fut enterrée. C'est dans sa lumière qu'est né le Festival de la Correspondance, qui en était, en 2016, à sa 21e édition. L'an dernier, Julia de Gasquet a succédé à Anne Rothenberg, qui, 15 années durant, a contribué à la qualité et à la notoriété d'une manifestation couvée par le maire de sa ravissante cité, Bruno Durieux. On suivra d'ailleurs Anne Rothenberg à Biarritz, où elle lance une prometteuse manifestation en octobre. Isabelle Pia nous dit que naturellement cette correspondance s'interrompt lors des périodes de retrouvailles des deux femmes. La comtesse de Grignan séjourne à plusieurs reprises à Paris, rue des Trois Pavillons et rue Courtauvillain, puis à l'hôtel Carnavalet, où emménage sa mère en 1677. Par trois fois, dès l'été 1672, la marquise se rend de son côté dans la Drôme provençale. Elle y assiste aux différentes étapes des travaux d'embellissement du superbe château de Grignan et témoigne du train de vie fastueux qu'on y mène. C'est là qu'elle s'éteint, d'une fièvre lente, le 17 avril 1696, et repose depuis. Bien qu'elle n'y ait pas vécu beaucoup plus de 4 années en séjour cumulé, le château garde une telle empreinte de son passage qu'il devient, dès le siècle suivant, un lieu de pèlerinage pour artistes et écrivains. La première à s'y rendre, en 1770, est Lady Mary Coke. « Mon imagination est si remplie de Madame de Sévigné, écrit la poétesse, qu'il me semble à chaque instant qu'elle va m'apparaître. » Au moindre bruit que j'entends, je m'imagine voir la porte s'ouvrir.
Voulez-vous danser, marquise? Voulez-vous danser le menuet? Vous serez vite conquise. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Entrons en danse, quelle cadence. Oh, 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 oh. Oh, 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 le menuet, c'est la polka du roi. Pendant que le marquis sommeille, je veux poser un baiser sur vos doigts fluets, sur votre bouche vermeille. Moi, pour l'amour, je suis toujours prêt. Oh, 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 quelle cadence. Oh, 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 le menuet, c'est la polka du roi. Montons sans faire de tapage, tout en dansant le menuet là-haut. Montons jusqu'au troisième étage, du bonheur nous aurons bientôt. Oh, 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 oh.
cadence, quelle cadence. Le menu vaisselle, falcade du roi. Oh, douze et moi, minute brève. C'est dans la joie, la soie et le satin que j'accomplis mon plus beau rêve. Chérie, je vous possède enfin. Oh, 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 danse, danse, quelle cadence. Oh, 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 le menu est celle, la polka du roi. Mais soudain, qu'y a-t-il, marquise? Je ne vous sens plus très bien dans mes bras. Vous fondez comme une banquise. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Ah ah, ah ah, entre danseux, quelle cadence. Ah ah, ah ah, le menu est c'est pourtant la polka du roi.
Hélas, monsieur, je suis en cire, et vous êtes au musée Greffin, Louis XIV.
Ah, triste sire, nous ne sommes plus des humains. Fini la danse, plus de cadence. Ainsi s'achève la polka du roi.
Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et vous retrouvera à Versailles pour une autre émission de Bienvenue chez le roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard dans les studios du ROCAS de Radio Grand Ciel.